I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis Nova.
Et la parole, pour moi, c'est essentiel, je trouve. C'est le point de départ. Ce dont je suis persuadé, c'est que ça finit toujours par construire un mieux. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'ouvrir sa gueule.
Elle a joué des seconds rôles et des héroïnes, dans la rue, sur les planches, dans des films indépendants, dans des séries populaires, devant la caméra de Solveig Hansbach, de Lépine Kervernes et puis José Daillon. Corinne Massiero est comédienne, mais elle ne ressemble pas aux autres stars de cinéma. La beauté, l'allure, oui, elle est immense. Le côté éthéré, le fait de mesurer chacun de ses mots pour communiquer plus qu'on ne parle, non, ça pas du tout. Ça s'est vu lors de la dernière cérémonie des Césars, quand elle a débarqué dans l'habit sanglant de Peau d'Âne, avant de l'ôter, pour montrer aux caméras son corps entièrement nu. Dessus étaient peints les mots « Nos cultures, nos futurs » et « Rends l'art, Jean ». Gros titre scandalisé, plainte pour exhibitionnisme, évidemment classé sans suite, mépris face à une cérémonie pas assez tenue et surtout face à un corps pas assez lisse. Cette action-là s'inscrivait pourtant dans le combat politique qu'elle mène à gauche depuis des décennies. Elle s'était d'ailleurs présentée à Roubaix sur la liste du Front de Gauche, au municipal de 2014. En ce moment, elle occupe avec les interlutants le théâtre Sébastopol à Lille, pour protester contre la fermeture des lieux culturels et réclamer des engagements pour protéger les intermittents, mais aussi toutes les travailleuses et les travailleurs précaires. C'est là que je l'ai rencontrée, un samedi matin, peu après la cérémonie des Césars. Sur la scène, des militants préparaient les affiches des prochaines manifs. On s'est assise dans les fauteuils rouges côté spectateur. Et je lui ai demandé comment on construit un rapport à la parole qui permet ça, de balancer son mécontentement devant toute sa profession, sans peur, mais d'abord, ce que cette prise de parole avait provoqué autour d'elle. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
Ça a été, merci, énormément de merci. Merci de parler pour nous. Merci. Hier encore, il y avait une manif qui est passée devant le théâtre qu'on occupe. C'était majoritairement des mômes. Et quand je suis sorti pour dire on est là, on soutient, quoi. Il y en a plein qui m'ont sauté dessus. On dit oh, putain, trop bien, merci. Merci de parler de nous, merci de ceci, merci de cela. Comme si quelqu'un qui avait une voix qui porte un peu plus, ce qui est c'est pas que je suis quelqu'un de connu, mais je veux dire, forcément qu'il y a beaucoup de journalistes qui m'ont demandé des interviews, d'amener la parole de gens qui ont l'impression de ne pas être entendus, de ne plus être entendus, pas du tout entendus. Ils ont l'impression que ça commence à bouger et à se faire entendre. À se faire écouter, c'est une autre histoire, mais au moins à se faire entendre.
Et ça, même juste merci, c'est difficile pour toi à entendre.
Ah ouais, beaucoup. Tout ce qui est compliment et tout ce qui est remerciement, c'est physique. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal. C'est moins pire maintenant parce que je travaille dessus, mais ça fait tout le temps un nœud au sternum. C'est un truc qui... C'est comme me faire prendre en photo, par exemple. Me faire prendre en photo. Autant avec une caméra, j'ai pas de problème parce que j'ai l'impression que j'utilise l'outil. Autant quand c'est en photo, j'ai l'impression de subir, d'être un objet beaucoup plus. Et là, ça coince. Alors après, c'est la relation avec celui ou celle qui manipule l'outil. Mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Ou même quand on vient me dire des compliments sur mon boulot ou sur des choses que j'ai dites, ou, qui ne sont pas forcément intelligentes d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça me rappelle d'ailleurs un exercice qu'on faisait... Quand je faisais du théâtre de rue, il y avait un exercice qu'on faisait, on se mettait à plusieurs, et on se mettait en une espèce de haie d'honneur, si tu veux, tous les comédiens. Et chacun son tour, on passait au milieu de la haie, et il fallait s'arrêter devant chaque personne, on était une trentaine, les yeux dans les yeux, et c'était le tunnel de l'amour. Donc c'était « Oh, t'es belle, t'es beau, t'es... » Voilà, que des compliments, même si tu... Voilà, que des trucs, même si t'es pas vrai, whatever. Tu passais comme ça. Et après, il y avait le tunnel de la haine. T'es moche, t'es conne, t'es con, tu joues mal, etc. Et moi, le tunnel de la haine, mais aucun soucis. Vraiment, rigolade, machin, aucun soucis. Et quand il a fallu que je passe dans le tunnel de l'amour, c'est-à-dire recevoir des compliments, des machins, même si c'était faux, j'arrivais pas. Donc j'ai commencé à courir, et tout le monde me courait après en disant « Mais attends, on n'a pas fini !» J'ai beaucoup de mal avec ça, beaucoup, beaucoup de mal. Mais je sais qu'il faut travailler dessus, parce qu'il faut accepter ça aussi pour que moi, je continue à me construire, quoi.
Et alors, quand tu étais petite dans ta famille, comment on se parlait ?
Ben, on se parlait pas. Autant, je pouvais parler, je pouvais parler avec ma grand-mère, ou mon père ou ma mère, ça arrivait quand ils avaient le temps. Et puis voilà, puis bon, c'était pas des conversations non plus. Mais entre frangin et frangine, on se parlait pas. Enfin, certains d'entre eux se parlaient entre eux, mais moi, non. J'avais des cousins, des cousines avec qui je pouvais parler, mais... Il y avait des sujets qui étaient très politiques, parce qu'à l'époque, moi, je viens d'une famille du Nord. Des deux côtés, c'est du prolétariat. Donc, à l'époque, c'était coco à fond. C'était encore la mode, à l'époque. Donc, il y avait des sujets, j'entendais parler de beaucoup de sujets qu'on dirait de gauche, vois-tu. Et moi, les trucs qui me faisaient flipper, c'était Pinochet, Videla... Tu vois, tous ces trucs-là que j'entendais, pour moi, c'était ça. J'avais ces trouilles-là, la trouille des flics qui pouvaient... tu vois, le Nord a été une région très occupée, où il y a eu aussi des gens qui ont été réfugiés aussi, tu vois, dans ma famille. C'était dingue, d'ailleurs, parce que c'est des histoires que j'entendais, même dans les villages où j'ai vécu... divers et variés, ceux de ma grand-mère maternelle aussi. Ils avaient vécu l'occupation, ils avaient vécu l'évacuation. Donc tout ça, j'avais l'impression de l'avoir vécu moi-même à force de l'entendre. D'entendre, tu sais, des détails, des trucs. C'est pas des trucs que t'entends d'un maître d'école ou que tu vois à la télé. C'est des trucs que t'entends, des détails que t'entends, de ressentis de gens qui ont vécu des trucs plus ou moins horribles. Hein. C'est vrai que les gosses de mon âge... pour la plupart, c'était pas trop leur truc. Donc j'ai toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport à ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que, assez tôt, je me suis dirigé vers des groupes où on pouvait essayer de faire des actions, au moins de discuter politique au sens large du terme. Quand j'étais gosse, je me disais que quand même je suis tchotte, tu vois, j'avais, je sais pas, mettons 6-7 ans, là, puis j'entendais les adultes parler autour avec un discours, il faut pas être raciste, il faut pas être ceci, il faut pas être cela, mais dans la vie de tous les jours, souvent c'était l'inverse, c'est-à-dire que des gens qui disaient égalité, homme-femme, dans la famille, tu dis, c'est bizarre, c'est tout le temps les bonnes femmes qui font la bouffe, qui s'occupent des gosses, qui pour la plupart n'étaient pas rémunérées pour le boulot de femme au foyer qu'elles faisaient. C'était la majorité à l'époque, c'était ça. Hein. Il y a un truc qui va pas. T'entendais les propos machos des mecs, tu vois, les réflexions sur ce qui passe à la télé. Les gonzesses, les machins, les tout ça. Et puis les bonnes femmes, par contre, fallait être droite, jamais parler de cul, jamais pas bouger d'une oreille, alors que tu entendais très bien que un tel allait tirer un coup à droite à gauche et que c'est normal pour les mecs, tu vois. Donc il y avait une espèce de schizophrénie qui s'est installée comme ça dans mon petit crâne de gamine, quoi.
Et alors tu dis qu'il y avait d'un côté un discours politique assez fort et de l'autre côté beaucoup de silence. Il venait d'où ce silence entre vous ?
Je suppose que c'est dû à des non-dits qui sont perpétués de génération en génération. Je dis ça maintenant, à l'époque je ne l'analysais pas comme ça, bien évidemment. Mais oui, bien sûr qu'il y a des... Tu sais, quand t'entends des trucs, « Ah, fais gaffe, les mecs, c'est tous des pourris, pas un pour attraper l'autre. » Alors bon, même... tu vois, t'as des cousins, des frangins, des oncles, tout ça, que t'aimes bien. Alors même eux, c'est des pourris, mais pourquoi ? Ouais, puis fais gaffe, quand tu vas à l'école, quand t'es dehors, si jamais il y a une voiture qui s'arrête, surtout tu te barres, si jamais tu te fais attaquer, tu cries au secours, tu cries au feu, faut pas crier au secours, faut crier au feu, tu prends une pierre, tu casses un carreau, tu te sonnes à toutes les portes, tu vois, tu dis des trucs comme ça, l'agression tout le temps, toujours te dire que t'es, en fait t'es une personne de sexe féminin, donc tu vas être une proie, et tu es une proie, même en étant enfant, tu es une proie, et qu'il faut apprendre à te battre, mais en même temps, il faut apprendre à fermer ta gueule. Donc, il ne faut pas s'habiller d'une manière qui pourra attirer le regard d'un agresseur. Mais ça veut dire quoi, tu vois, c'est tout des... Comment dire, c'est des impressions qu'on te donne, tant que tu ne sais pas trop où tu fous les pieds. Moi, j'ai été pendant longtemps à m'habiller comme un sac, pour ne pas attirer... Ben voilà, en fait ça servait à rien puisque je suis passé à la casserole quand même. Donc voilà, il y a cette peur comme ça qui vient, qui est transmise de génération en génération. Avec un jour, une des psys que j'allais voir m'avait dit, mais faut parler à votre famille, il faut demander s'il y arrivait des trucs, tu vois. Donc, un jour j'ai envoyé des messages comme ça en disant, si vous êtes au courant d'un truc qui serait arrivé à la famille, n'importe quoi, un suicide, une maladie grave, un inceste, whatever, je suis là. Ben j'aurais... Putain, c'était plus une boîte que j'avais ouverte, c'était une armoire gigantesque. On dit, mais t'es au courant que une telle a subi ça, qu'un tel a subi ça, qu'il s'est passé ci, à tel point qu'à un moment j'ai fermé les robinets parce que c'était... de se prendre tout dans la gueule comme ça quand t'es pas préparé. Voilà, j'étais âgé, hein, j'avais une trentaine d'années, tu vois. Après, tu te dis, bah ouais, je comprends pourquoi il y a des non-dits. C'est qu'en fait, il y a des choses qui se disaient parfois. On avait une cousine comme ça qui parlait jamais, qui était très introvertie. Et les gens de son âge, dont je faisais partie, se moquaient un peu d'elle, tu vois. Elle est chiante, elle est machin. Et des années plus tard, quand j'ai des années, au moins 30 ans plus tard, en fait, j'ai appris qu'elle a été abusée par son père, qui était mon oncle. Voilà, c'est tout des trucs comme ça, et tu comprends des choses comme ça. Et jamais elle en a parlé. J'ai appris aussi qu'il fallait jamais forcer quelqu'un à parler. Moi, il y a une fois où je suis allé porter plainte, quand j'ai appris qu'une personne de ma famille avait subi des violences sexuelles comme ça quand elle était môme. Le jour où je l'ai appris, je suis allé au commissariat et j'ai dit, ben voilà, je ne sais pas quoi faire de cette histoire, mais je ne veux pas que la personne, l'agresseur, refasse la même chose sur des enfants. Je ne savais pas ce qu'il était devenu, ce mec. Donc je sais que ça a été très violent pour... j'ai prévenu hein, la membre de ma famille qui avait subi ça. Elle l'a très mal vécu, elle est quasiment tombée dans les pommes. J'ai au téléphone, hein, son mec m'a dit, écoute, là, elle n'est pas bien, Anna. Donc ça, j'ai regretté de l'avoir fait comme ça, mais je ne savais pas comment faire. Et c'est ça qui est dommage. On devrait apprendre ça très tôt à l'école.
Et alors, comment t'as fait, en venant d'une famille très silencieuse comme ça, pour devenir, toi, quelqu'un qui ose dire, ose parler très fort, et comme tu dis, ouvrir ta gueule?
Ça a pris beaucoup de temps, parce que je suis quelqu'un de très timide et très introverti, très peureux et très lâche. Donc ça a pris beaucoup de temps pour m'obliger à exprimer. Alors ça n'a pas été tout de suite la parole, mais c'est clair et net que le truc décisif, c'est le jour où je suis monté sur ça, tu vois, sur ce plateau. Enfin, c'était pas celui-là, c'était un autre théâtre. Mais le jour où ça s'est fait accidentellement, après, est-ce qu'il y a des hasards? Ça, j'en sais rien, c'est une autre... ça, c'est une autre histoire.
T'avais 30 ans?
28 ans, oui. Le jour où ça arrivait, j'avais 28 ans. Et voilà, je suis monté sur un plateau de théâtre par hasard, parce que voilà, il y avait des copains qui étaient comédiens qui faisaient des trucs et nanana, ils faisaient des exercices pour apprendre ce qu'on appelle du training, quoi. Et donc on attendait comme on est là, tu vois, dans les fauteuils, qu'ils aient terminé leur séance, et la metteuse en scène a dit, mais venez avec nous faire les trucs plutôt que de rester là comme des abrutis. Et là je suis monté sur le plateau. Et il y a des exercices qui ont été faits, et j'ai vu des gens qui me regardaient, m'exprimer, pas forcément avec les mots. Hein. Et ça a duré, je ne sais pas combien de temps, ça a duré peut-être 20 minutes, une demi-heure ou une heure, je ne sais plus. Mais en tout cas là, j'ai fait, je reste là. Elle m'a dit, ben non, tu ne peux pas rester là. Si, je veux être là, parce que soudain, j'avais comme si j'avais l'autorisation d'exister et d'exprimer ce que je ressentais. Alors après, ça a pris du temps parce qu'il faut trouver les gens avec qui tu peux exprimer soit des textes, soit des mots qui viennent de toi. Alors, c'est passé par la danse, c'est passé par les improvisations, beaucoup les improvisations au théâtre et en danse. Et puis dans la rue aussi, quand j'ai commencé à faire du théâtre de rue, de te retrouver au milieu, il n'y avait pas de code, je ne savais pas comment il fallait faire. Donc me faire confiance, ça commençait comme ça tout doucement. Et puis petit à petit, tu commences à ouvrir ta gueule pour une chose, une petite, puis une moyenne, puis une grande. Et puis après, tout ça en parallèle avec toutes ces luttes dont on parlait, qui revenaient épisodiquement. Et puis où tu apprends à faire des actions. Nous, tu vois, je suis parti de la section bourrin des interlutants. Voilà, tu fais une action et à chaque fois que tu vas dans une action qui peut être, on va dire, dangereuse avec des guillemets, hein, mais qui peut amener des ennuis, on va dire, tu y vas, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça? Ben, s'il faut y aller, parce que si tu le fais pas, et c'est comme ça que petit à petit, tu crées une parole, tu la portes et puis surtout tu l'assumes après, parce que les retombées sont pas forcément sympas sur le moment.
Et t'as jamais eu peur de perdre tes rôles, ta possibilité de jouer, qui est quelque chose de tellement important pour toi, d'être sur scène ou d'être devant la caméra? T'as jamais eu peur que tes prises de parole, elles embêtent trop de gens et que ça te retombe dessus?
Embêter trop de gens, non, puisque le but, c'est ça. Quand tu fais une action, que tu prends la parole, c'est pas d'embêter pour embêter, c'est de... Dans mon sens, c'est de provoquer un choc. Tu sais, un peu, Augusto Boal, il faisait un truc super comme ça, le théâtre de l'invisible. Ou, pour te la faire courte, hein, tu vas dans un endroit public, le but, c'est que les gens ne se rendent pas compte que tu es comédienne ou comédien, et tu provoques des réactions. Alors, ça peut être un sujet, par exemple, le racisme, ou un comédien ou une comédienne qui n'est pas blanc ou blanche, se fait insulter par un autre comédien ou comédienne, ils sont censés pas se connaître, et provoquer des réactions dans le public. Et voilà, tu crées un truc comme ça, et puis tu te barres, et les gens savent pas qu'en fait, tu salues pas à la fin, tu te barres. Ça, je trouve ça génial, et j'aime bien faire ça. Donc, j'aime bien parce que ça crée, ça fait avancer le schmilblick, si tu veux, la réflexion. Parfois, il faut provoquer des réactions pour que l'effet de sidération chez certaines victimes... se barre, le déni aussi, ou simplement la réflexion, se dire, ah tiens, merde, c'est vrai qu'on je parle d'une certaine manière, j'agis d'une certaine manière, je pense d'une certaine manière, et peut-être que c'est pas le bon truc. Donc non, c'est volontaire. Après, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je veux dire, au pire, moi, je sais me démerder, je sais dormir dehors, je sais aller piquer pour bouffer des pâtes, je sais... Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive?
Mais si tu pouvais plus jouer demain?
Mais jouer, je pourrais toujours. Tu peux jouer dans la rue, tu peux toujours. Après, c'est dans quelles conditions? C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Dans quelles conditions le faire, porter ta voix, combien de gens vont venir t'écouter, c'est ça le truc. Je pense que c'est pas penser à ce que tu peux perdre, c'est penser à ce que tu peux gagner. Après, je dis pas que c'est facile à faire et je dis pas que je le fais. Moi, je te dis, je suis quelqu'un de très peureux, hein, vraiment, et de très lâche. Et il y a des actions, des fois, où je me dis, mais putain, un jour, c'est une anecdote, mais c'est assez révélateur de ma lâcheté. Un jour, je me suis retrouvé dans un hold-up, dans une banque, il y a très longtemps, à Paris, une toute petite banque. Et j'étais en train de déposer, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et j'étais en train de déposer, je devais avoir 50 balles, c'est des francs à l'époque, hein, c'était pas beaucoup. Et dans un petit porte-monnaie avec des pièces et des machins et tout ça. Et d'un seul coup, je vois un mec qui passe au-dessus du bar, là, du comptoir. Qu'est-ce qu'il fout? Et là, il y a un gros pushka comme ça devant ma gueule, un flingue. Et les mains en l'air. Alors, premier effet, tu te dis, c'est une caméra cachée. Et tu vois la gueule du mec, c'est peut-être qu'il fait du théâtre de l'invisible. Non, ça n'a pas l'air. Et donc, tout le monde se fout dans le fond. Et je me souviens, il y avait un bonhomme qui était assez large, assez gros, qui était là. Et J'avais les mains en l'air comme tout le monde. Et petit à petit, j'ai commencé à me mettre tout doucement derrière le mec en me disant « Si le gars il tire, ça ira dans le bonhomme, pas sur moi. » Tu vois, pour te dire à quel point je suis lâche, quoi. Ben voilà, chaque fois que je fais une action, c'est toujours ça. Je me dis, mais il ne faut pas réfléchir, il faut y aller, il faut plonger. Et puis, ben, ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour. Hein, voilà.
Ah ouais, sur quoi ?
Ben, des actions, de partir sur une action. Et quand tu vois les tortues ninja en face, tu sais, même ici. Oui, tu sais, qui se mettent à tabasser. Quand tu vois, bah là, tu vois les manifs de l'année dernière, d'année d'avant, perdre un œil, c'est pas rien, quoi. Tu vois, c'est... Et puis même sans aller jusque-là, se faire tabasser, c'est pas... Tu vois, c'est les héros, là, ça existe. Les héros et héroïnes... Oui, tout ça, c'est du vocabulaire, hein, mais quand tu es dans le feu de l'action, tu fouettes pareil et tu te chies dessus. Hein. Donc il y a des fois, ça m'est arrivé de me barrer dans des manifs où on est pris en as, à courir, et à sauver ma peau, quoi.
Et du coup, pour toi, une action comme au César, c'est relativement facile par rapport à des dangers physiques, comme de la violence policière, etc.
Non, là, évidemment, personne n'allait me foutre un pain dans la gueule. Enfin, pourquoi tu sais jamais, mais bon, non, franchement, faut pas déconner. Non, ce que je craignais, je ne voulais pas que si, qu'en cas de mauvaise retombée, ça implique des gens qui étaient autour, qui m'avaient invité à remettre le truc. Tu vois, Marina, Laurent, Blanche, puis d'autres gens. Je ne voulais pas, parce que c'est une action que j'ai fait moi, perso. Personne d'autre était au courant. J'avais la seule peur, c'était ça. Je voulais pas qu'on s'en prenne à des gens qui n'y étaient pour rien. Après, non. Ben, moi, me foutre à poil sur une scène, je l'ai fait dans des tas de spectacles, c'est pas un problème. Le fait de... Je m'attendais tellement au pire. Je m'attendais à ce qu'on me demande de sortir, comme c'est en léger différé, que ce soit coupé. Je m'attendais à avoir des regards méprisants... Genre, t'es contente, t'as fait ta petite clown, allez, vas-y, casse-toi, c'est nul à chier. Je m'attendais plus à des trucs comme ça. Et puis, c'est tout l'inverse qui s'est passé, quoi. Vraiment tout l'inverse. Donc ça, non, moi, le vrai courage, c'est se lever le matin pour aller essayer de choper un job ou de la bouffe pour nourrir ses gosses quand t'as plus rien, quand t'as le RSA, quand t'es un étudiant et que tu sais plus comment bouffer, quand t'es psychologiquement, tu sais plus comment vivre. Ça, c'est le courage, c'est de faire ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas courageux du tout, non.
Et du coup, t'étais contente de la manière dont ça s'est passé tu t'attendais à des réactions pires que ce qu'il y a eu, finalement?
Moi, je te dis, moi, je m'attendais à beaucoup de mépris, beaucoup de condescendance, de ricanement. Dès que je suis sorti de scène, derrière, il y avait des tas de gens qui étaient... Parce que tu sais, on attend, il y a les gens qui remettent, il y a beaucoup de monde à l'extérieur, dans les coulisses. Des techniciens, des artistes et tout ça. Mais il y a plein de gens qui m'ont sauté dessus en me disant bravo, merci, super. Il y a même des gens qui sont allés m'amener une petite bouteille de champ. Parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas manger. Il y avait juste des trucs de café, tu sais, en capsule, et puis des petites bouteilles d'eau. Il n'y avait pas de bouffe et tout ça. Ils sont allés me chercher des petits trucs pour. Voilà, c'était trop le fun. Et puis après, dans la salle, quand j'y suis retourné en attendant la fin de la cérémonie. Vraiment, j'ai eu des clins d'œil, des sourires, des gens qui sont venus me parler. J'étais vraiment très, très étonné. Après, je me suis dit, bon, le tsunami va arriver demain. Et quand j'ai rallumé mon téléphone, j'avais une centaine de messages personnels de plein de gens. Là, pour le coup, des gens que je connais moi personnellement. Après, moi, je ne vais pas voir les messages négatifs. Moi, je poste des trucs, mais je ne regarde pas les commentaires. Sauf quand je vois que c'est le nom d'un copain, d'une copine. Là, j'ai vu des gens qui occupent des théâtres et qui se foutent à walper, qui marquent soutien à Corinne ou Cédric Héroux, que j'admire beaucoup aussi, qui m'a dit « Ouais, vas-y, tchotch avec toi ». Il y a des politiques aussi qui m'ont envoyé des messages de soutien, des avocats, des gens lambda aussi qui ont dit « Merci de parler de nous ». Du fait qu'on se retrouve à poil, qui qu'on soit, pas seulement les artistes, quoi. Tu vois. Ça, c'était Voilà. Mais c'est le fameux tunnel d'amour que j'ai du mal à traverser. Voilà.
Vous pouvez retrouver Corinne Massiero dans la série Capitaine Marlowe, bientôt diffusée sur France 2. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre émission d'histoire vraie, ou encore Travail en cours, qui est consacré au bouleversement du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine.
J'ai côtoyé la mort tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte en France. Mais on a vécu avec le bruit de la guerre d'une façon quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais.
Je suis Anaë Bossert et dans Ma Tonkinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saïgon en 1954 à Marseille en 2024.
Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli.
Découvrez Ma Tonkinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.